Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h18 et ce soir, dans le grand débat du Club des Idées, on va se projeter dans la France de demain. À quoi ressemblera notre climat et notre pays dans quelques années, avec quelques degrés en plus, des cigales en Normandie, des grands crus du Bordelais dans le Pas-de-Calais, des champs de cyprès en région parisienne, pourquoi pas. Cette année, par exemple, l'année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en France, ça n'est donc pas de la science-fiction. Alors comment ce réchauffement va-t-il affecter nos vies et notre quotidien? On en parle ce soir avec nos invités. Hervé Letreux, bonsoir. Vous êtes climatologue, professeur à la Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. On en parle également avec Philippe Gourmin. Bonsoir. Vous êtes expert forestier, président du comité spécialisé gestion durable des forêts qui dépend du ministère de l'Agriculture. C'est un comité qui a rédigé une feuille de route pour l'adaptation précisément des forêts françaises au changement climatique. Et on en parle également avec Benoît Sima. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et auteur de l'Atlas de la France du futur aux éditions Autrement, sorti en 2016. Alors, année 2020, la plus chaude jamais enregistrée en France. Première question, Hervé Letreux, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est grave, docteur ?
C'est grave parce que ça va continuer. Donc, on a émis des gaz à effet de serre de manière très, très nombreuse, très grande quantité. On ne sait pas les enlever de l'atmosphère et ils continuent donc de provoquer un réchauffement. C'est un chiffre qui donne un peu l'ampleur de ce que ça représente. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre, les CO2 qu'on met dans l'atmosphère, chaque année, c'est à peu près 4 fois plus que ce qu'on mettait chaque année dans les années 60. C'est-à-dire qu'on continue d'alimenter la machine.
Un
réchauffement climatique qui est toujours en croissance.
Alors, 14 degrés en moyenne cette année pour l'année 2020, considérée comme année la plus chaude en France jamais enregistrée, ça représente un dépassement de la normale de près de 1,5 degré. Pour parler tout à fait clairement, je vais y arriver, ça veut dire que l'engagement de l'accord de Paris sur le climat visant à contenir entre 1,5 et 2 degrés la hausse des températures dans les prochaines années est déjà caduque.
Ah, il n'est pas complètement caduque, parce que là ce sont des valeurs qui sont des valeurs, je pense, continentales. Et qu'on a une partie océanique qui se réchauffe un peu moins vite.
Oui.
Mais dans les faits, oui, ce sera extrêmement difficile. Quand on parle de neutralité carbone, on parle en fait d'arriver à zéro émission de CO2 en 2050.
Ouais.
2050, ça voudrait dire que dans 30 ans, un peu moins même, on aurait été capable, partout sur la planète, d'éradiquer ce qui sont les voitures, avions...
Voilà. Et on verra que tout ça a des conséquences effectivement très concrètes sur notre quotidien dans les dizaines d'années qui viennent, on va en parler. Benoît Sima, d'abord, peut-être un mot du constat, hein. Vous partagez ce qui vient d'être dit évidemment, ce sont des faits. Les experts du GIEC estiment par exemple qu'il reste 20 ans avant d'atteindre un point de non-retour. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, bien sûr, mais le problème, si vous voulez, pour les spécialistes comme nous qui parlons de ce sujet, c'est l'année 2020, parce que c'est la plus chaude jamais enregistrée effectivement, mais le vrai problème, c'est que le grand public ne se rend compte de ce problème que lorsqu'il y a des pointes de canicule. Alors j'imagine qu'on va évoquer le problème dans cette émission. Et en l'occurrence, les plus grosses canicules enregistrées, alors je parle sous le contrôle de notre climatologue de ce soir, parce que moi je ne suis qu'un journaliste qui travaille sur les études faites par les climatologues, je crois que 2019 justement était l'année où on a ressenti, en tout cas en tant que citoyens, nous tous, les plus fortes canicules. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler, informer, communiquer, parce que le vrai phénomène, de manière saillante, on le sent lors de ces périodes estivales très fortes et très rudes.
Bon, et sur les conséquences, Philippe Gourmin, on va commencer avec vous, expert forestier, président du comité spécialisé gestion durable des forêts. Quelle implication cette hausse de température aura sur notre environnement ? Peut-être une photo générale d'abord.
Alors, ça a déjà un impact sur notre environnement forestier.
Ça a déjà commencé ?
Ça a déjà commencé. Nous,
de quelle
manière ? Nous sortons de 3 années très sèches et très chaudes, notamment dans le Grand Quart Nord-Est, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, et les conséquences sont déjà visibles en forêt. Nous sommes un peu aux avant-postes.
Ça se manifeste comment ?
Alors ça se manifeste tout simplement par des dépérissements d'essence, de parcelles. Il y a des espèces forestières, on appelle ça une essence, qui ne supportent pas les pics de température et les sécheresses prolongées. Et là, au bout de 3 ans, elles dépérissent, elles meurent, tout simplement.
Donc, elles meurent ?
Elles meurent, donc vous avez des parcelles entières d'épicéas, des hêtres, des pins sylvestres, des sapins pectinés, donc c'est à la fois du feuillu et du résineux. C'est dans le Grand Est, mais aussi en région parisienne ou dans les Hauts-de-France. Je pense notamment au domaine de Chantilly, qui a de très beaux chênes qui ont 200 ans, mais qui ne supportent plus les à-coups climatiques et qui dépérissent.
Oui.
Donc on le voit déjà.
Oui, et je crois que c'est le cas aussi dans les Vosges. On va vous faire partager ce que disait Jean-Charles Villaume, technicien de l'ONF dans les Vosges, à propos du sapin. Ce qu'il dit est absolument stupéfiant. Écoutez ça.
On est en train d'assister à une disparition massive d'une espèce qui est là depuis 10 000 ans. Il y a des endroits dans la forêt où le sapin a totalement disparu alors qu'il était présent massivement il y a ne serait-ce que 5 ans, quoi. Le plus inquiétant, je dirais, c'est qu'on se poserait même la question, non plus de l'essence qui serait en place de bain, mais d'avoir simplement du verre. Donc si les prédictions plus 8 degrés en 2100 se confirment, il n'y aura plus rien, il n'y aura que des cailloux. Ça sera le Pakistan. Ouais.
Voilà, les Vosges, ce sera le Pakistan. Hervé Letreux, c'est un peu exagéré sans doute, mais il force le trait volontairement. Mais c'est quand même ça l'horizon, parce que là, on ne parle pas de 2000 siècles. Hein. On parle de oui, 50, alors, 60, 100 ans.
Ouais, de toute façon, on va vers un changement qui est un changement très, très fortement inéluctable. Hein. Donc, je pense que de ce point de vue-là, alors il faut l'empêcher, on n'a pas d'ailleurs plus d'empêcher le changement climatique réellement, mais de l'atténuer. Le vocabulaire, c'est d'atténuer le changement climatique, d'avoir une forme d'atterrissage qui soit à un niveau de température le plus faible possible. Et ce niveau de température, ce ne sera certainement pas celui que l'on espère au vu de ce qui se passe déjà. Donc oui, on est dans une situation qui est une situation d'évolution rapide.
Mais sur l'écosystème naturel, pour prolonger ce qui vient d'être dit, il y a les forêts, on va continuer d'en parler avec Philippe Gourmand, il y a aussi l'agriculture. Alors, on s'amuse un peu à fantasmer, mais des vignes en région parisienne et en Normandie, la fin des grandes exploitations dans les Landes, le Sud-Ouest, la Beauce, la multiplication des incendies qui ravageraient aussi et qui participeraient à une forme de déforestation. Aujourd'hui, ça concerne plutôt le Sud de la France et le Sud-Ouest. Ça pourrait arriver dans le Nord aussi, tous ces mouvements-là.
Il faut prendre les choses une par une. Quand on regarde effectivement les problèmes d'agriculture, on a un double problème, c'est effectivement une agriculture aujourd'hui qui est en place dans des conditions qui sont peut-être pas durables pour des raisons de toutes sortes, et en particulier aussi économiques souvent. Mais donc on est dans un cadre effectivement où on sera obligé de revoir les filières agricoles, les filières et les milieux qu'on peut appeler les milieux vulnérables, ceux qui seront soumis à ces tensions, ils sont multiples. On a en France, des zones de montagne qui sont des zones où, effectivement, on a des écosystèmes qui montent jusqu'au jour où ils peuvent plus monter. On a aussi une zone littorale dans nos régions qui est extraordinairement importante.
On va en parler de la montée des eaux qui va contribuer à changer aussi nos côtes.
Les exemples sont multiples. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir que par rapport à ces exemples multiples, les changements sont des changements qui ont une valeur systémique. C'est-à-dire que, on pourrait parler de l'eau, l'eau touche à tous les domaines. Et c'est la manière dont tous ces domaines se rencontrent les uns les autres et s'articulent. Tous ces changements futurs s'articulent d'une manière qu'on devra gérer collectivement. On pourra prendre tous les sujets les uns après les autres.
Benoît Sima, journaliste économique, auteur de l'Atlas de la France du futur, c'est un des points sur lesquels vous avez travaillé, vous, les modifications pour l'agriculture française dans les années qui viennent ?
Alors, bien sûr, et l'exemple le plus saillant, c'est la vigne. Parce que vous savez, la vigne, c'est une plante extrêmement résistante. Elle s'est répandue dans le monde entier. On fait du vin dans le monde entier, sur un modèle français souvent. Et on voit déjà aujourd'hui des modifications très importantes dans les encépagements. Donc les cépages, c'est les espèces en fait de raisins avec lesquelles on fait du vin. Et vous savez que, si je peux prendre l'exemple du Bordelais, à Bordeaux, on a toujours cette dualité entre le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Enfin, tout le monde connaît ça.
Oui.
On a le Médoc d'un côté et puis Saint-Émilion de l'autre. Et on s'aperçoit, les viticulteurs locaux s'aperçoivent que il y a une espèce, c'est le Cabernet Sauvignon, qui résiste plutôt bien à la chaleur et qui donc, paradoxalement, a de l'avenir dans la région. Par contre, le Merlot a beaucoup plus de difficultés et on pourrait, c'est vrai, alors nul ne le sait ce qui se passera dans 20 ans, mais on plante beaucoup de vignes en ce moment en Bretagne et on pourrait très bien imaginer que le Merlot, qui ne se fait plus au climat bordelais, se retrouve dans 20 ou 30 ans du côté de Rennes.
Mais ça, l'implication économique, elle est phénoménale, parce que ça veut dire que ça va modifier considérablement les AOC, par exemple. Alors, c'est du concret, mais ça va être le cas.
Alors là, on est vraiment dans le concret, et en matière d'AOC, on est encore plus dans le concret, parce que si on produit plus de Merlot du côté de... Enfin, en tout cas, beaucoup moins de Merlot du côté de Saint-Émilion, la typicité, qui est en fait l'ADN des cahiers des charges AOC, elle disparaît. Donc, évidemment, il faut tout revoir. Donc, les conséquences économiques et même sociale pour l'emploi, parce que le Bordelais emploie énormément de saisonniers et apiculteurs. Évidemment, ça va avoir un impact énorme dans les vins à 30 temps qui viennent, et il faut s'y préparer dès maintenant.
Alors, vous restez avec nous, Benoît Simon, on reste avec nos invités, on parlera de l'implication de ce réchauffement sur l'aviation civile aussi, sur le nucléaire, sur la multiplication des épisodes de météo exceptionnels, et puis, bien sûr, sur la fonte des neiges et des glaciers. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du grand débat du Club des Idées. Ce soir, on se projette dans la France de demain. On écoute le monde changer à travers le climat. Notre pays, dans quelques années, à quoi ressemblera-t-il avec ce réchauffement climatique, quelques degrés en plus, mais qui change considérablement notre quotidien et nos paysages et nos vies. Vous allez voir, on en parle ce soir avec nos invités, avec notamment Philippe Gourmand, qui est expert forestier, président du comité spécialisé gestion durable des forêts. Vous me disiez juste pendant la pause, Philippe Gourmand, que la transformation radicale de nos paysages, eh ben, c'est dans la forêt qu'elle se voit le plus.
C'est là où c'est le plus visible, parce que la transformation de l'espace agricole, c'est moins visible. L'agriculture, c'est souvent, mis à part la vigne, une culture annuelle. Donc tous les ans, ça change. Donc les Français sont habitués à voir les champs changer. Donc on peut passer d'une culture à une autre sans que ça se voit trop. Quand vous voyez des pans de forêt qui tournent de l'œil, qui disparaissent, qui rougissent parce que les arbres meurent, vous avez tout à l'heure...
À cause du climat,
à cause des stress climatiques, les sécheresses et les pics de chaleur. Les deux, en fait, les essences qui composent la forêt française ne sont pas faites pour résister les températures de plus de 40 degrés pendant plusieurs jours et des sécheresses de plus de 3 mois.
Donc qu'est-ce qui se passe? Les végétaux meurent.
Oui. Les insectes qui sont favorisés par les pics de chaleur prolifèrent. Donc vous avez un double phénomène. D'abord, un affaiblissement des arbres. Il manque d'eau. Ils subissent le stress, la température. Et de l'autre, des insectes qui sont beaucoup plus nombreux qui attaquent des arbres affaiblis. Et le résultat, c'est le dépérissement.
Et ça, c'est irréversible ?
Ah ben, une fois que c'est mort, oui, c'est irréversible.
Donc, il faut replanter.
Et donc, il va falloir repartir avec des essences que nous espérons plus adaptées. Donc, on va aller chercher des essences, les essences et les espèces d'arbres qu'on va chercher au sud de la France, voire de l'autre côté de la Méditerranée. Et on va mélanger tout ça, parce qu'il nous faut diluer les risques.
Donc, ça veut dire que dans 50 ans, on aura des forêts françaises qui ne ressembleront en rien aux forêts qu'on connaît actuellement.
C'est une quasi-certitude.
Une quasi-certitude.
Et le paysage français va se transformer. Alors, par petites touches, par crises successives, on ne sait pas très bien comment ça va se transformer. En tout état de cause, à entre 1,5 et plus 2 degrés d'augmentation de température, il y a des essences, notamment en plaine, qui ne peuvent pas résister.
Donc on verra aussi des espèces qu'on ne voyait pas dans certaines parties de la France se développer massivement, parce que... il fait plus chaud et parce que ce sont des espèces qui peuvent résister, comme vous le disiez, au changement climatique, aux fortes chaleurs, au froid.
Il y aura déjà une sélection naturelle. Il y a des la forêt française, elle est très variée au niveau des essences. Il y a plus de 130 essences d'arbres. Donc certaines d'entre elles sont d'ores et déjà adaptées à des chaleurs plus importantes. Celles-là vont tirer leur épingle du jeu. D'autres vont régresser. Elles seront moins présentes. Donc la composition de la forêt va changer. Et en plus, on va devoir introduire de nouvelles essences ou des variétés plus sudistes pour assurer les fonctions de la forêt. Alors, au premier rang desquels, on retrouve le stockage du carbone.
Oui, c'est vrai, ça, c'est important de le rappeler. Hervé Le Treuc, vous êtes climatologue. La forêt, les végétaux ont un rôle important à jouer aussi dans le maintien du climat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je veux dire, les deux sont liés.
Bah, en fait, le carbone, ce qu'il faut, c'est le stocker. On en a peut-être un petit peu trop maintenant dans l'atmosphère. Donc, il faut trouver des puits de carbone. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle justement des accords de Paris sur l'évolution du climat, on a besoin, pour que ce soit le plus faisable possible, d'identifier effectivement ce qu'on appelle des puits de carbone, des lieux qui permettront de stocker une partie de ce carbone. Alors, il y a plusieurs usages possibles. Il y a l'océan, bien sûr, qui peut capter une partie de ce carbone. Mais ce n'est pas très durable. Si on veut réduire nos émissions, c'est un puits qui disparaîtra avec les émissions qui seront plus faibles. Et puis, par contre, on a aussi beaucoup d'espérance sur ce qu'on peut faire du côté continental. Alors, avec deux grandes filières, essayer de capter le CO2 et puis de l'enfouir dans des puits profonds. Ça, c'est quelque chose qui est évoqué depuis très longtemps aujourd'hui, mais qui ne se fait pas très vite. Et puis, il y a tout ce qui est lié à la partie agricole au sens large, qui comprend la forêt, qui est d'essayer de mettre du carbone dans les sous-sols. Alors, sans cela, on sera très loin. Si on n'arrive pas à faire au moins une partie de cela, on sera très loin de ce qu'il faudra pour être...
Oui, donc l'enjeu est évidemment essentiel. Alors on a parlé du constat, on a parlé du bouleversement aussi pour le monde viticole, le monde agricole, pour les forêts, on vient de l'entendre. Je voudrais qu'on s'intéresse aussi à deux aspects qui sont capitaux, l'élévation du niveau de la mer pour les côtes, est-ce que ça implique? Et puis la fonte des glaciers. Écoutez par exemple Thierry Hugues, directeur de la sécurité des pistes des Deux Alpes. Voilà ce qu'il disait à notre micro il y a peu de temps.
Moi, je circule sur le glacier depuis 35 ans. Sur le versant nord, le versant nord-est, là, on a vu que le glacier a beaucoup reculé, oui. Au niveau du bas du glacier, on a reculé de 100-150 mètres depuis les 20 dernières années.
Voilà, Benoît Sima, journaliste économique, est toujours avec nous. Alors, la fonte des glaciers, c'est vrai que malheureusement, on le constate année après année, que ce soit la mer de glace à Chamonix, que ce soit aux Deux Alpes ou partout en France. Est-ce que, dans quelques années, le ski sera un vieux souvenir? Est-ce que c'est ça qui nous attend dans les 20 ou 30 ans qui viennent?
Alors c'est vrai que c'est très intéressant, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé des stations de ski cet hiver, qui sont encore fermées pour cause de pandémie. Moi, je voudrais vous répondre en citant une étude que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Alors elle remonte à 2014, donc c'est il y a quelques années, mais quand même elle est très frappante. Elle a été faite au Canada, et elle s'intéresse aux villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver depuis 40 ans. Et d'après les prévisions, donc à 2000, alors c'est 2081, donc c'est pas la France de 2050, enfin le monde de 2050, mais bon, c'est quand même le futur, on va dire, dans la deuxième partie du siècle, c'est quand même intéressant. Donc cette chaire de recherche au Canada, dans l'université de Waterloo, a calculé que sur les 19 villes qui avaient accueilli les JO d'hiver depuis les années 60, la moitié ne pourrait plus le faire à partir de 2070, parce que manque de neige.
Parce que manque de neige.
Tout simplement. Et en France, c'est pareil. Météo France a fait tout un tas d'études là-dessus. Et on a des cartes qui sont d'ailleurs publiées dans la TASS, où on voit que, notamment dans la partie sud des Alpes, il y a les pertes de niveau en centimètres de neige sur les pistes sont comprises entre 65 et 95%. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez.
Oui.
Et donc, ça veut dire concrètement que la moitié des stations de ski ne seront plus en état de fonctionner à partir de 2045-2050.
2045. Bah, c'est vrai que pour tous les gens qui ont la chance de pouvoir aller au ski, on le voit, à l'aune d'une génération. Moi, sur 20 ans, je vois, quand je vais, je ne sais pas quoi, à Chamonix, la fonte du glacier, c'est vertigineux, ou la neige à côté de Grenoble. Pourquoi c'est si important, Hervé Le Treux, vous êtes climatologue, pourquoi c'est si important de maintenir aussi les neiges éternelles? Parce qu'on se dit, bon, plus de ski, ok, c'est une chose, c'est une industrie qui disparaît, des emplois, certes c'est important, mais il y a autre chose derrière.
Il y a plusieurs choses en fait. La première, c'est peut-être de se dire que c'est souvent des sortes de vigies par rapport à tous les problèmes climatiques qu'on a eus, la fonte alors des glaces plus au nord, surtout dans les régions polaires, mais aussi chez nous, dans toutes les régions de montagne. C'était une des marques très claires du réchauffement climatique. On sait que ce réchauffement, il est planétaire. Donc, en fait, ça se produit dans les deux hémisphères, ce qui est déjà un résultat qui est assez étonnant, enfin, parce que c'est pratiquement partout. Il y a une fonte des glaces qui est rapide, qui est plus rapide souvent que ce qui était attendu. Et donc, c'est un marqueur très précis. On retrouve ça en Sibérie, on retrouve ça en Californie, on retrouve ça chez nous. Et c'est... En termes de besoin de protection, je crois que ça fait partie des zones qui méritent l'attention la plus forte. Alors pourquoi est-ce que ça se réchauffe? C'est aussi un des endroits où le phénomène est le plus simple. On a une des gaz à effet de serre qui réchauffe. Et puis il réchauffe quoi? Il réchauffe les choses qui peuvent fondre. Et donc c'est quelque chose qui est très direct, qui est très difficile à empêcher, hein, et qui va nous accompagner pendant beaucoup d'années, parce qu'on ne sait pas enlever les gaz à effet de serre. Ils sont dans l'atmosphère, ils se stockent dans l'atmosphère, on ne sait pas les enlever, donc ça va continuer.
Alors de la même manière, il y a l'élévation du niveau de la mer, qui est un sujet évidemment éminemment inquiétant, et qui menace plusieurs villes et espaces naturels du littoral, que ce soit la Camargue, la Charente, la Vendée, la Gironde, les Hauts-de-France ou le Cotentin. L'île de Sein, par exemple, dans le Finistère, est désormais à fleur d'eau, avec des habitants qui sont directement menacés. On évoque une montée de l'ordre d'un mètre du niveau des mers d'ici 2100. Alors, un mètre, ça paraît rien, mais c'est colossal. C'est évidemment colossal.
C'est énorme, oui. En fait, oui, les rapports du GIEC disent entre 50 cm, 1 mètre, ils disaient cela, mais en fait, on a tendance à être maintenant poussé vers des valeurs de plus en plus fortes sur ce relèvement du niveau de la mer. Il faut voir que ce n'est pas le seul problème d'ailleurs du littoral, il y a aussi tout le problème de l'érosion littorale, qui est un problème très...
Le trait de côte qui recule.
Le trait de côte recule aussi parce qu'il y a des régimes de vent, il y a des régimes qu'on ne maîtrise pas complètement d'ailleurs au niveau des connaissances, mais qui font qu'on est dans un système qui change. Ce système qui change, il change de manière très facile à comprendre. Le relèvement du niveau de la mer, c'est là aussi très simple. C'est la fonte directe des glaces qui l'alimentent.
Il y a une solution contre ça, Philippe Gourmand. Alors, on évoquait beaucoup de planter des haies, de hausser les dunes, mais un mètre, il n'y a rien à faire contre un mètre.
On ne peut pas. Là, c'est un problème purement physique. On peut stabiliser des dunes. C'est le travail de l'ONF. C'est une des missions de l'Office national des forêts, de stabiliser les dunes par des plantations. Mais à partir du moment où le niveau de la mer monte, quand il y a une tempête, elle est beaucoup plus violente. Et là, il y a une limite aussi à la protection par ce qu'on appelle le génie écologique. Mais là, tout ce qu'on vient d'évoquer, là, les problèmes des glaciers, le ski, vous allez peut-être faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, non, vous pourrez pas, les stations sont fermées. Mais par contre, peut-être au mois de février, ça illustre quoi ? C'est le fait que nos sociétés assez sophistiquées vont être violemment désorganisées dans plein de compartiments par le changement climatique. Et elles le sont déjà. On a évoqué, là, en peu de temps, la vigne, les activités de sport d'hiver, les activités de bord de mer. On a évoqué l'agriculture et la forêt. Ça fait beaucoup. C'est juste multi-impact, le changement climatique, d'ores et déjà, avec seulement 1 degré en moyenne de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est juste pour qu'on se projette dans ce qui nous attend.
Et puis, des modifications des écosystèmes. J'ai vu, par exemple, en mer, sur les côtes bretonnes, il y a des poissons de Méditerranée, maintenant, qui cohabitent avec des poissons de l'Atlantique. Alors, ça pourrait prêter à sourire, mais c'est sacrément inquiétant quand même, parce que c'est un indicateur du réchauffement des températures de la mer. On voit arriver des espèces inconnues, par exemple la blénipan, qui est une espèce qui est normalement en Méditerranée et qui maintenant gravite dans l'Atlantique Nord. Voilà, ça c'est un
effet. Il peut y avoir des opportunités. Une espèce qui arrive du sud, des mers tropicales vers le nord, peut avoir un intérêt commercial, elle peut être comestible et remplacer des espèces qui, elles, vont se réduire. Et les espèces animales, elles migrent beaucoup plus facilement que les espèces végétales. Oui. Et mon problème, moi, de forestier, enfin nous, les forestiers, c'est qu'on est avec un matériel qui bouge peu ou très lentement. Donc si on n'intervient pas, si on n'assiste pas à cette migration végétale, elle ne se fera pas.
Oui. Benoît Assima, on n'aura pas demain des éléphants et des girafes, évidemment, au nord de Paris, mais quand même, on assiste à un bouleversement en quelques années qui avait mis des centaines et même des milliers d'années à s'opérer avant que la main de l'homme passe par là.
Oui, mais enfin, vous savez, le principal, l'interlocuteur précédent vient d'en parler, ce qui compte, c'est le bouleversement général qui va s'opérer pour les êtres humains. On peut parler des animaux, mais moi, ce que je voulais ajouter à la réflexion précédente, c'est que on a dans notre atlas des prévisions. Alors là, on parle de démographie, de l'INED, en matière de migration intérieure du pays et de naissance. En fait, les départements qui vont connaître le plus fort essor démographique dans une France qui sera en 2050 d'environ, peut-être, proche de 70 millions d'habitants, ce sont justement les départements côtiers. Mmh. Et tous les problèmes qu'on vient d'évoquer par rapport aux élévations du niveau de la mer vont toucher directement toutes ces populations. Alors c'est en ça que le bouleversement de la faune, parce que c'est ce vers quoi vous voulez qu'on parle maintenant, c'est peut-être un sujet un peu moins, qui prête un peu plus à sourire. C'est comme le retour du loup. C'est vrai que quand on a fait notre carte sur le retour du loup en 2015, bon, il y avait un tiers de la France où le loup était installé. Et là, j'ai été justement cet après-midi regarder une carte de l'Observatoire du loup, qui est un institut qui s'occupe d'observer tous les jours un petit peu ce qui se passe. Là, aujourd'hui, le loup est arrivé dans le Finistère, effectivement. Donc, c'est très étonnant. Mais finalement, c'est pas un changement majeur. C'est simplement des espèces venues du Sud s'adaptent plus facilement à un climat qui change. Et donc, on en voit plus.
Non, mais c'est l'illustration, effectivement, que ce changement est multiple et passe aussi par des modifications considérables de pans entiers de notre économie, mais aussi par la mobilité des espèces. Je voudrais qu'on évoque, pour la dernière partie de cet entretien, les villes. Parce qu'il y a aussi un sujet sur la modification de nos villes liées à ce réchauffement climatique. Pascal Relais, urbaniste sur nos villes bâties pour protéger de l'hiver, alors que maintenant le problème c'est l'été. Il nous disait ceci il y a quelques semaines.
Le problème de fond de nos villes, c'est qu'elles ont été pensées pour l'hiver. Et elles captent le soleil de façon à pouvoir valoriser le soleil pendant l'hiver. Notre problème futur, c'est l'été, en fait, qui est en train d'arriver, les problèmes caniculaires qu'on voit poindre avec le réchauffement climatique. Ces bâtiments très minéraux se chargent en chaleur sous l'effet du soleil et restituent cette chaleur pendant la nuit, ce qui rend extrêmement inconfortable nos appartements, nos logements.
Voilà, Hervé Le Treux, c'est un élément auquel on ne pense pas souvent. Enfin, quand on habite en ville, on le vit quand il y a une canicule, il fait chaud, voilà, sous les toits, des chaleurs parfois. Et c'est vrai que les appartements et les villes ne sont pas faites pour ça, ne sont pas faites pour absorber des chaleurs comme cela.
Disons qu'il y a eu un travail important qui a été fait, effectivement, pour essayer d'avoir des maisons, des lieux qui soient zéro énergie, comme on dit, en hiver, essentiellement. Donc, effectivement, ça a été la cible de beaucoup de travaux, c'est d'essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre avec des mécanismes qui sont surtout des mécanismes hivernaux, parce que c'est là qu'on dépense beaucoup d'énergie pour chauffer nos maisons. Et c'est vrai que le réchauffement a plusieurs conséquences, hein, et effectivement, ce sont des conséquences d'été, alors, qui sont doubles. D'abord, c'est un chauffage direct, ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Et puis c'est aussi, c'est des problèmes un peu plus météorologiques qui accumulent une partie de tous les gaz qui peuvent être toxiques dans les parties basses de l'atmosphère, et donc une dégradation de la qualité de l'air. En 2003, ce n'était pas encore directement lié au changement climatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais on a eu plusieurs milliers de morts, et la moitié à peu près, c'était effectivement les conséquences directes de la chaleur. Et puis l'autre moitié, c'était les problèmes de qualité de l'air.
Philippe Gourmand.
Oui, alors il faut à la fois travailler sur l'urbanisme, qu'il faut repenser en fonction de la période estivale, alors que nous pensions essentiellement par rapport aux contraintes hivernales. Il faut aussi penser au végétal en ville, qui est finalement peu présent, en tout cas en France. En quoi le végétal peut nous aider? Alors, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature.
Oui.
Utiliser le végétal, le réintroduire en ville pour faire des îlots de fraîcheur, qui nous permettent de contrer les îlots de chaleur. Il est certain qu'une rue totalement ombragée va quand même tamponner les pics thermiques. Voilà. Donc, c'est à faire. La plupart des villes françaises se penchent sur cette question.
Un petit mot là-dessus, Benoît Sima. Ça veut dire que demain, il va falloir complètement réinventer nos villes quand même, parce que même les matériaux ne sont pas faits pour absorber la chaleur.
Alors, non seulement il va falloir réinventer nos villes, mais surtout il va falloir modifier nos comportements au travail. Moi, j'ai souvent pris cet exemple quand on a sorti il y a quelques années cet atlas. C'est que la France de 2050, ça va devenir un peu l'Espagne d'aujourd'hui. Vous savez, l'Espagne, c'est un pays méditerranéen. 80% du territoire, c'est méditerranéen depuis très longtemps. Et à Madrid, il fait 45 degrés au mois de juillet, à 3 heures. Et donc à Madrid, à 15 heures, tout le monde est à la sieste. C'est pas une blague, parce qu'on ne peut pas travailler. Et donc il est possible, je ne dis pas probable, mais possible que dans le futur, en France, on doive aussi s'adapter à ces températures. Pas forcément extrêmes, mais en tout cas assez pesantes pour nous empêcher de travailler autrement que, comme le font les Espagnols, tôt le matin et en fin de journée.
Hervé Le Treux, c'est une certitude, ça, que les épisodes de forte chaleur, les épisodes caniculaires, vont se répéter, vont se multiplier dans les années qui viennent. Ça, c'est sûr?
Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, on émet des gaz à effet de serre. En fait, le climat des années futures, c'est celui des gaz à effet de serre déjà émis, en grande partie, puis ceux qu'on ajoute chaque année. Donc on est face à quelque chose qui, de ce point de vue-là, est écrit déjà en grande partie. Alors pas complètement, bien sûr, heureusement, on a des marges encore pour essayer de sauver beaucoup de choses, mais c'est une grosse partie des choses sont inéluctables.
Bien, vaste sujet. Merci infiniment de nous avoir éclairés pendant ces quelques instants en direct dans Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h49, vous restez avec nous. On marque une pause, on se retrouve avec les archives et ce soir, on va vous raconter un joli conte de Noël, enfin presque. L'histoire de Blanche-Neige, c'était en 1937, la première sortie ciné. À tout de suite.